Il est 7h33.
Et notre invité du dimanche est là, en studio avec nous. Bonjour, vous vous présentez ?
Bonjour, je m'appelle Bob Swaim, je suis un Américain à Paris, et plus parisien qu'autre chose d'ailleurs, malgré mon accent, et je fais du cinéma.
Vous êtes réalisateur ?
Je suis réalisateur du cinéma, c'est vrai, je fais du cinéma, mais on peut faire beaucoup de choses. En fait, j'ai tout fait dans le cinéma, du montage, de la prise de vue, etc. Et d'origine, je suis ethnologue. Je suis venu à Paris pour faire de l'ethnologie. Oui. J'ai attrapé le virus du cinéma à la Cinémathèque française en 1965. Et j'ai tout laissé tomber. Mes parents étaient vraiment fous de rage. J'étais déshérité. Et puis, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'école de Louis Lumière, première école de cinéma au monde, fondée par les frères Lumière en 1920. Et je suis sorti avec une BTS de cinéma en 1970. Et tout ça pour devenir réalisateur et auteur des films. Et voilà, j'ai fait des courts-métrages, des documentaires, des films industriels, et puis un long-métrage en 1977 qui s'appelle « La nuit de Saint-Germain-des-Prés », qui était le redécouvert de Léo Mallet par les Français. Parce que les Français, ils ont oublié et abandonné Léo Mallet, et je suis allé le trouver, et j'ai dit... J'aime bien ces bouquins qui se passent dans tous les quartiers divers de Paris, parce que je suis un fou de Paris. Et donc, j'ai adapté avec Claude Villers, un homme de radio, mais on a fait un scénario ensemble qui s'appelle « Bouillir au pont de Tolbiac ». On n'a pas trouvé un producteur pour ça, mais j'ai trouvé un producteur qui dit « ça, c'est pas commercial, mais si vous voulez faire la nuit de Saint-Germain-des-Prés, ça m'intéresse ». Donc, j'ai adapté la nuit de Saint-Germain-des-Prés, et en 1977, je fais ce film, et voilà, mes débuts dans le cinéma français.
Ça y est, c'était parti. Après, il y a eu...
Parti, non, parce que personne n'a vu le film, sauf moi et ma famille.
Non, mais c'est une carte de visite extraordinaire, déjà, quand on fait un long-métrage.
Oui, c'est bien, mais surtout, la chose formidable avec ce film, c'est ça donnait une deuxième vie à Léo Mallet. Un auteur qui était vraiment abandonné et que quelqu'un que j'aimais beaucoup qui vient de nous quitter d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et puis j'ai vécu 3-4 ans très difficiles parce que le film n'a pas marché. Et un jour, je rencontre un policier, on se sympathisait. Il s'appelle Mathieu Fabiani et la grande aventure de la balance a commencé. Donc j'ai écrit et réalisé La Balance, et l'année suivante, j'ai eu des Césars, etc.
Grand succès, quoi.
Grand succès, et c'était une belle histoire d'amour dans ma vie, belle histoire. Ouais. Parce que tout s'était fait avec de la passion. J'ai découvert un Paris qu'on ne connaissait pas, j'ai découvert une ville dans une ville, qui était Belleville, c'était exotique, personne ne le connaissait, même les Parisiens ne connaissaient pas Belleville à l'époque. J'ai découvert la police française, les PJ, les jeunes policiers, c'était nouveau pour moi, mais je crois aussi pour les Français. Les Français ont découvert cette université.
Bob Swaim, après la Balance, vous êtes retourné aux États-Unis filmer, tourné Masquerade, ça a été tourné.
Oui, je fais, en fait, c'est un truc très curieux, je regrette un peu quand même, j'ai l'impression d'avoir quitté mes amis, mais c'était intéressant, c'est-à-dire que j'étais, après le succès international de La Balance, qui était comme très très curieux, petit film français, qui était fait avec des petits moyens, avec les acteurs inconnus. Il faut dire que Berry, Richard Berry, Philippe Léotard, Nathalie Baye, c'était des jeunes acteurs qui montaient. Et puis d'un seul coup, ça c'est la magie de ce métier, d'un seul coup, ça fonctionnait. On ne sait pas pourquoi. Et puis le film a voyagé dans tous les pays du monde. Et d'un seul coup, je me suis trouvé à Hollywood, avec plein de propositions. Et je dis, il faut que je le fasse, parce que je peux pas dire non. Je suis parti là-bas, j'ai fait deux films. Et curieusement, enfin, c'est clair, j'étais pas très heureux. Parce que j'ai fait une choix de vie, il y a 20 ans avant. J'ai décidé de vivre en France, d'épouser en France, d'avoir des enfants, etc. C'est une qualité de vie, c'est une façon de vivre ici. Et puis je me suis rendu compte que c'est d'arriver dans un pays à 20 ans, de retourner à 38 ans ou 40 ans, c'est trop tard. Je veux dire, je suis pas français, mais je suis plus américain.
Donc c'est une expérience que vous ne renouvellerez plus.
Non, bien sûr, je vais faire un film. Mais j'avais un contrat à la MGM, j'avais des bureaux superbes, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais je dis, c'est pas une vie. Bon, le professionnellement, c'est intéressant de faire des films là-bas. Des moyennes que jamais je peux avoir en France, mais c'est pas grave. J'estime qu'on n'a qu'une vie. Et c'est un choix de vie, pas de carrière que je fais.
Alors la musique, Bob Swan fait partie intégrante du monde du cinéma. Christian Ledent, votre choix musical?
Oui Marielle, effectivement, je voudrais d'abord, avant d'ouvrir cette chronique, vous rappeler qu'il ne faut jamais dire fontaine, je ne boirai pas de tonneau, puisque si on prend l'exemple de Tina Turner qui devait prendre sa retraite, je ne parle pas de retraite pour Françoise Hardy, mais elle avait dit, c'est vrai, en 1988, après cet album, décalage, je ne ferai plus d'album. Et bien voilà, nous sommes en 1996, soit quelques années plus tard, avec un nouvel album de Françoise Hardy. Alors bien sûr, tout ça s'explique. Il y a une chanson avec Alain Lubrano, un jeune auteur-compositeur en 1993. C'est vrai que ça lui a donné le goût du retour à la chanson. Et puis en 95, il y a un vrai virage anglais avec d'abord un duo avec le groupe Blur, un groupe très, très populaire en Angleterre, et puis d'abord un contrat avec la maison de disques Virgin qui lui demande de nouvelles chansons. Alors, eh bien, 13 chansons écrites avec ce jeune guitariste français Alain Lubrano, et puis également avec Rodolphe Burger. Rodolphe Burger, c'est un Strasbourgeois. Il a fondé le groupe Catonoma et ils ont reçu récemment le Bus d'Acier 96. Tout ça pour vous dire que c'est un album très électrique avec beaucoup de guitares. Et Françoise Hardy a signé tous les textes avec, bien sûr, la collaboration de l'inévitable Jean-Noël Chaléa. Quand on regarde un peu de près la carrière de Françoise Hardy, on voit que dans les années 80, bien sûr, Jean-Noël Chaléa est quasiment présent à chaque album. On vous propose tout de suite d'écouter un extrait de cet album. Il s'appelle Le Danger et c'est bien le nouveau disque de Françoise Hardy. Voilà un extrait de l'album de Françoise Hardy que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il s'appelle Le Danger.
Bob Swan est notre invité ce matin sur Europe 1. Qu'est-ce que vous faites le dimanche, tiens? en général?
Le dimanche, mais j'adore les dimanches parce que c'est... En fait, c'est pas très différent que mes autres jours, j'avoue, parce que je me lève tôt le matin, je fais le petit déjeuner pour ma petite femme. C'est une chose que je fais souvent. Ouais, mais ça, c'est mon côté américain. Ah. Hein, un café, je fais des petites tartines grillées, etc. Et après, tranquillement, je pars au café Flore. Hein, je vais au Flore tous les jours. Et le dimanche, c'est différent parce que j'achète les journaux anglais que j'aime beaucoup, le Sunday Times, Observer, tout ça. J'aime bien de passer une ou deux heures à lire la presse. C'est une habitude américaine que j'ai. Et ça, je regrette, en France, on n'est pas ces gros journaux de dimanche comme on a en Angleterre, en Amérique. Et après, je traîne un peu et puis toujours des copains que je croise là-bas dimanche. Et puis l'après-midi, je déjeune avec mes garçons qui sont grands. Maintenant, j'ai un fils, Benjamin, qui est peintre, qui préparait un doctorat de philo. Et un autre fils, Christopher, qui a 23 ans, qui est à sciences politiques. Très français.
Il n'y a pas de cinéaste en herbe encore?
Non, mais je crois que tous les deux, ils auraient pu faire du cinéma. Mais le fait que je le fais, je crois que ça... Ils ont vu aussi, c'est un métier quand même pas facile, difficile.
Est-ce que vous voyagez beaucoup?
Je voyage énormément dans mon métier.
Ouais.
Je fais moins de voyages comme avant, parce qu'avec ma femme, on adorait voyager. Souvent, on est allé, par exemple, en Italie, on adorait aller en Italie. Mais le fait que j'ai vécu 2 ans à Rome il y a quelques années pour un film, on va un peu moins en Italie. Et puis surtout, on a acheté une maison sur la côte, un peu dans les montagnes, dans les morts, dans un petit village. Et chaque fois qu'on a un peu de temps, on va là-bas.
Pour faire la bonne coupure.
Oui, c'est vraiment... C'est notre pays là-bas.
Alors Bobson, on va aller chez vous, mais pas dans les morts. On va aller de l'autre côté de l'Atlantique, hein, sur votre terre natale, avec Pierre Josse des Guides du Retard, alors, qui nous a rejoint. Salut Pierre.
Bonjour Marielle.
Et on va où précisément?
Bonjour Jean-Luc. Bonjour Bobson.
Bonjour.
Ce matin.
Oui, alors écoutez, ce qui est extraordinaire, c'est que j'étais persuadé, alors que Bobson était peut-être anglais, sûrement américain, mais je ne suis pas du tout de New York. Je ne savais pas que vous étiez de New York. Et j'ai fait ma chronique sur New York.
Mais je ne suis pas de New York. J'ai travaillé à New York.
Ah, vous avez travaillé à New York.
Et j'ai vécu à New York.
Ok.
Mais alors, je suis né à Chicago.
J'ai choisi New York. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est banal, c'est rasant, tout le monde connaît. Eh bien, pas du tout. Parce que New York, c'est immense. Je veux dire, moi qui ai commencé à faire New York il y a 30 ans à pied, j'ai à peine fini Manhattan, j'ai fait quelques rues de Brooklyn, et vous pensez qu'il me reste encore 30 ans de travail, hein, entre le Bronx, le Queens, Brooklyn, Staten Island.
Et vous marchez lentement peut-être, Pierre,
non? Oui, parce que je suis un contemplateur, j'ai le nez en l'air, je regarde la forme des gargouilles, la forme des fenêtres, j'essaie de deviner si c'est un Millet Van Roche ou un Sullivan, etc., etc. Donc là, je vous emmène à New York, mais alors pas n'importe où, je vous emmène dans un quartier extraordinaire, peu connu, évité de la plupart des touristes, surtout par ignorance, c'est ce qu'on appelle le Lower East Side.
Je le connais.
Alors tout le monde va à Greenwich Village, mais alors ça c'est out. Hein,
ouais.
Alors vraiment c'est nul. Le Lower East Side, c'est le pendant du Greenwich Village, mais dans le côté est. Ouais. D'ailleurs, des snobs disent le East Village, c'est un terme que je n'ai jamais employé pour essayer d'un peu de snobiser cette région. Alors, et ça c'est bien parce que c'est l'articulation un peu avec Bob Swain qui a eu ce regard d'ethnologue sur Paris et qui n'a pas choisi Belleville par hasard, qui est le creuset de l'immigration à Paris, c'est-à-dire que des vagues entières de juifs, d'arméniens, de grecs, de yougoslaves, etc., sont venus s'implanter depuis le 19e siècle, vague après vague, et c'est pour ça ce qui fait ce quartier si intéressant. Et ben le Lower East Side, c'est pareil, les juifs ukrainiens, les juifs russes, les irlandais, quelques italiens, sont venus s'installer vague après vague et ont fait la richesse de ce quartier. Et aujourd'hui, je le dis, c'est la dernière frontière à New York. C'est un quartier qui refuse d'être normalisé. Comme vous le savez, New York, c'est devenu le terrain de jeu des riches, un playground for rich people. Hein. Mmh. Et là, ça résiste. Il y a encore il y a des bars, par exemple, où vieux juifs ukrainiens côtoient des punks ou des marginaux, et tout ça, ça coexiste fraternellement contre un processus qu'on appelle l'embourgeoisement à Paris, mais qui est très fort, un terme très fort, s'appelle gentrification. Qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire changement sociologique brutal d'un quartier, on vire les gens et on en remplace par les nouveaux riches, les parvenus, etc. Donc je vous emmène dans ce Lower East Side, qui est vraiment un lieu qui vibre, qui bouge, un lieu culturel où se confrontent la pauvreté et la richesse, où se confrontent toutes les cultures, et avec des expériences personnelles absolument extraordinaires. Et je ne vous parle pas du côté architectural, intact. D'abord, c'est vrai que les Américains ont peu de passé, donc ils respectent profondément tout ce qui est nouveau mais ancien, par exemple le 19e siècle, et intégralement sur le plan architectural. D'ailleurs, Milos Forman, quand il a fait son film Ragtime, par exemple, il n'a eu qu'à enlever les antennes de télé aux fenêtres pour avoir un New York du début du siècle entièrement reconstitué. Il n'y a même pas eu besoin de boucher des portes, de faire des masquages, des trucages, etc.
Bon, alors on y va comment ?
Council Travel, c'est la plus ancienne agence de voyage sur les États-Unis. Alors là, je fais un peu de nostalgie blues, puisque c'est par eux que je suis parti en 62, pas en avion, en bateau, 14 jours de bateau pour aller à New York. Donc extrêmement fiable, beaucoup d'expérience, spécialiste, vol sec, forfait aérien, location de tout, circuit, summer session dans les universités, enfin, etc., etc. Alors, son téléphone, 44 55 55 44.
Je vais noter ça, attendez.
Merci Pierre Josse, merci beaucoup. Bob Sam, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez obligé de voyager pour votre travail, pour des repérages, pour...
Oui, pour des films.
Pour des films, vous étiez au Cambodge il y a quelques
années. J'étais au Cambodge il y a même pas un an.
Il y a même pas un an.
Non, avec Bougie de Fossé.
Ça passe vite.
Oui, ça passe vite. Avec Bougie de Fossé, puis j'étais à Rome 2 ans, j'ai fait Escort Girl à Londres. En fait, je suis toujours en voyage. J'aime bien ça.
Oui.
J'aime bien. Mais j'adore de retrouver Paris.
Alors, on va voir maintenant si vous êtes vraiment un bon Américain à Paris au niveau de l'assiette, parce qu'on va poursuivre votre portrait avec Jean-Luc Petit-Renaud, notre maître queue.
Bonjour.
Qui va donc continuer le portrait de Bob Swain, le réalisateur de La Balance, entre autres. On le rappelle pour les auditeurs qui prendraient le train en route. Allons-y.
Mais vous savez que je craignais le pire. Je me suis dit, Bob Swain, un Américain, ça y est, hamburger, une tranche de pain, de la viande hachée, une tranche de pain, du ketchup, des choses comme ça. On mange debout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Figurez-vous que là, nous avons quelqu'un qui a pris en marche notre culture française et de la table notamment, de manière extraordinaire. Alors, il n'aime pas trop les restaurants. Il y va par nécessité. Mais il explique simplement que s'il ne va pas au restaurant, c'est uniquement parce qu'il trouve que c'est bien moins bien que chez lui. Donc c'est pour cette raison qu'il n'aime pas aller au restaurant. Alors quand vous le croisez, notamment dans un restaurant américain qui s'appelle le Coffee Parisien, qui est rue Princesse, où on sert de la cuisine américaine, c'est parce que c'est pas très loin d'où il habite et qu'il a donné un rendez-vous de travail et qu'on va se nourrir pendant ce rendez-vous de travail au restaurant. Autrement, eh bien écoutez, c'est un hymne à l'amour, c'est la cuisine de sa femme, de son épouse, dont il nous a parlé. Et pour lui, il n'y a pas une plus jolie cuisine. Et il explique avec son accent que de toute façon, dès qu'elle prend une salade fraîche et qu'elle met un filet d'huile d'olive dessus, quelques truffes rapportées de son pays dans le sud de la France... par-dessus que c'était le plus beau plat de la terre, que lorsqu'ils reçoivent des amis avec 3 pâtes, 2 tomates et 3 anchois, elle fait un plat de pâtes que même César, le grand spécialiste des pâtes, le sculpteur, pourrait complètement envier. C'est-à-dire qu'il a une admiration absolument sans limite pour madame. C'est ce qui fait que chaque matin, il l'a dit, à 7h30, il lui apporte son petit déjeuner au lit. Alors figurez-vous
messieurs,
que
prenez de la graine, hein.
Chez monsieur et madame Swain, le lit, c'est important parce qu'ils mangent au lit,
oui.
Ce qui paraît curieux. Un peu pour reprendre la tradition des Romains, où en fait on mangeait allongé, eh bien chez eux, ils mangent allongé aussi.
Mais c'est agréable de manger
au lit.
Mais oui,
ce sont les plateaux. Ouais. Et alors, il y a des plateaux qui sont faits avec des choses simples, des choses pétillantes de fraîcheur. Mais alors, il a une grande fierté, c'est que c'est lui qui fait le marché. Ça veut dire que les produits que son épouse trouve lorsqu'elle arrive pour faire la cuisine, c'est lui qui est allé les chercher. Il fouine dans tout Paris. Alors, il est chez Barthélémy pour aller acheter ses fromages rue de Grenelle, dans le 6e arrondissement, où il prend plutôt celui-ci plutôt qu'un autre. Il est capable de traverser à pied ou à moto 3 arrondissements pour aller chercher une volaille, retraverser 3 arrondissements pour aller acheter son pain, et il veut qu'il y ait un garde-manger dans cette maison absolument exceptionnelle. Alors, c'est un amateur aussi de vin. J'ai presque terminé, parce que je peux vous assurer, je l'ai vu faire quelques cadeaux. Il offre des pommes rolls 1985. Pour les connaisseurs, on saura tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire de vrais grands et beaux vins. Ça veut dire qu'il est Vous savez qu'il m'a rappelé. Il m'a rappelé Patricia Wells, la journaliste américaine, qui a écrit un livre qui s'appelle La France gourmande, oui. Avec ce regard américain qui découvre nos échoppes, nos marchés, et qui subitement nous les font revivre, un peu comme si on les avait oubliés, parce qu'on était incapable de voir les choses d'une manière aussi simple qu'un Américain qui regarde cette nourriture en France. Alors, je voulais vous offrir juste à la fin un petit registre, parce que c'est une bonne adresse du dimanche matin. Ça s'appelle Mes bonnes bouteilles, et c'est les bonnes bouteilles du Carré des Feuillants. C'est Alain Dutournier, un grand chef, qui est rue Castiglione, et en dehors de son restaurant, en dessous, il a ouvert une cave. Mais c'est la cave vraiment où l'on peut trouver des pièces de collection, mais pas forcément chères. J'ai un exemple ici d'un vieux rhum de Guadeloupe 1982 qui est à 185 francs la bouteille. Et il a comme ça des millésimes sensationnels. Je pense aux cadeaux que l'on peut faire, puisque vous faites des cadeaux dans la poche arrière, la sacoche arrière droite de la moto. Il y a toujours un petit cadeau qui est là. Et là, vous pouvez peut-être trouver des cadeaux futurs. C'est pour ça que je vous donne ce petit lexique des bonnes bouteilles d'Alain Dutournier que l'on trouve dans 14 rue Castiglione. Et que l'on peut aller comme ça toute la journée pour aller chercher quelques vins de collection.
Je vois ce que je vais faire dimanche matin. Alors.
Voilà.
Dites-moi, est-ce que le portrait de Jean-Luc vous convient? Est-ce qu'il l'a vu juste?
Oui, c'est bien. Est-ce que nous on a discuté un peu avant de venir et puis
à table
d'ailleurs. Oui, absolument. Table, et puis bien. Quand je lui ai expliqué que je mangeais au lit, il était très très choqué. Et j'ai dit c'est pas des plateaux de télévision, hein. J'expliquais un peu le genre de plat parce que c'est vrai que le fait qu'on mange dans le lit, on mange très bien, aussi bien qu'à table. Je veux dire,
juste... Non, mais c'est parce que je vous imaginais avec le bonnet de nuit sur la tête.
Non, justement, moi je dis, l'autre soir, justement, on a mangé un lot au miel et curry, hein, avec un peu de cumin, gingembre, dans papillote. Et c'est tous les soirs chez moi, c'est
bon,
comme ça.
Bon, on va venir. Hein. On va venir nous laisser une place dans le lit parce que là on est quand même nombreux, mais on va venir. Ah oui, la lot, très bien. Et ce soir
Ce soir, si ça vous intéresse, je veux dire. Mais il n'y a pas de place dans le lit là. Hein. Ce soir, c'est un poulet au estragon à la vapeur, ouais. Avec du cumin et asperges vertes.
Bon, pas mal. Hein.
Un petit dessert, un mangue au miel,
bon.
Qui est très, très bien.
Très bien. Merci. Bob Swain, avant de nous séparer, quels sont vos projets? Vous êtes en train de préparer un film ou
Oui, alors j'ai une proposition de télévision, mais ça fait, après le film que j'ai fait en Italie, j'ai dit, c'était un long métrage qui a duré tellement longtemps, et j'étais très fatigué, j'ai fait 3 ans de téléfilm, et là, j'ai écrit un film pour le cinéma qui s'appelle Vice Versa. Et j'espère de faire ce film cette année ou l'année prochaine. Mmh. Et je retourne pour ce film dans les nuits parisiennes. Ça fait pas mal d'années d'absence. Et effectivement, j'ai redécouvert des choses très étonnantes. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai trouvé, il faut aller voir le film, bien entendu. Hein.
Bien sûr. Alors, on va se séparer en musique. Votre choix musical, Bob Swain.
C'était un disque de B.B. King,
oui.
Un chanteur de blues que j'aime beaucoup. Mm-hmm. J'ai beaucoup hésité parce qu'on me parlait de musique. J'ai pensé de musique classique, etc. Mais je dis, c'est dimanche matin, un peu de gospel. B.B. King qui chante avec une grande chanteuse de jazz, Deanne Shure, et c'est une chanson de gospel.
Merci en tout cas infiniment d'être venu nous voir ici à Europe 1. Très bon dimanche.
Merci, à vous aussi.
Are you getting the spirit in the dark? Are you getting the spirit? In the dark, people moving. Ah, tell me we're grooving. Just getting the spirit in the dark. Tell me, sisters, how do you feel? Tell me, my brothers, how do you feel?
Do you feel like dancing?
Get up there
Voilà le choix musical de Bob Swain, qui était notre invité ce matin sur Europe 1. B.B. King avec la jolie voix de Diane Schoff, Spirit in the Dark.